Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Nathalie Loiseau, mais aussi Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi, tous les trois quittent le gouvernement. Remaniement plus large que prévu face aux élections qui se profilent, vous le comprendrez. Explication aussi dans ce journal autour de la proposition de Theresa May. La première ministre britannique se dit prête à démissionner si le Parlement adopte son texte pour sortir de l'Union européenne. Boeing et l'agence de régulation aérienne américaine se justifient après les crashs de deux appareils 737 MAX. Compte rendu des auditions à suivre et puis compte rendu également d'audience dans le procès en appel d'Abdelkader Merah. Son frère aîné était à la barre hier. Le remaniement gouvernemental ne se limitera donc pas au remplacement de Nathalie Loiseau. Le départ de la ministre des Affaires européennes était acté depuis l'officialisation de sa candidature pour les européennes. Elle représentera la majorité. Avec elle partent également deux secrétaires d'État. Emmanuel Macron a accepté hier soir leur démission, celle de Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, et puis celle de Mounir Majoubi, secrétaire d'État en charge du numérique. Tous les deux sont volontaires pour être candidats à La République En Marche au municipal à Paris, Rosalie Lafarge.
Faire d'une pierre trois coups, c'est peut-être ce qu'il y avait de plus simple pour l'Élysée. Plutôt que de remanier l'équipe d'abord pour remplacer seulement Nathalie Loiseau et plus tard pour trouver les successeurs des volontaires pour la mairie de Paris, l'exécutif fait son ménage de printemps maintenant et ce choix d'agenda interroge. On est à 2 mois du scrutin européen, à 1 an des municipales. Sortir tous les candidats en même temps, n'est-ce pas prendre le risque de brouiller le message? C'est le regret de certains dans la majorité. Benjamin Griveaux force la main et ça se voit. Ces enfantillages risquent de coûter cher au lancement de la campagne européenne, critique un marcheur. Chez les proches du désormais ex-porte-parole du gouvernement, on tempère. On veut voir ici un choix partagé avec l'exécutif pour tester au mieux la candidature de Benjamin Griveaux à Paris. Mais sortir Benjamin Griveaux, cela voulait dire forcément sortir le secrétaire d'État Mounir Majoubi. Lui aussi se verrait bien à la mairie de Paris et on voit mal l'exécutif avoir un candidat dehors, un autre dedans. La bataille pour la capitale est donc bel et bien lancé au sein du parti majoritaire. Le gouvernement, lui, doit se pencher sur les remplaçants des sortants. Si des noms circulent déjà, les nominations n'interviendront normalement pas avant le retour du Premier ministre. Édouard Philippe en déplacement au Qatar jusqu'à demain.
Au Royaume-Uni, c'est un changement bien plus important qui pourrait avoir lieu au gouvernement. La Première ministre, Theresa May, se dit prête à se sacrifier sur l'autel du Brexit. Elle assure qu'elle démissionnera si et seulement si le Parlement britannique vote l'accord qu'elle a négocié avec Bruxelles. Un vote qui pourrait avoir lieu dans la journée ou bien demain, vendredi. Analyse de cette annonce par Patrick Martin-Jeunier. Il est enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes.
Le fait qu'elle dise qu'elle s'en aille, c'était la condition qu'avait mis Jacob Rees-Mogg, qui est le président d'un groupe, vous savez, qui dirige 70 parlementaires eurosceptiques. Il avait exigé le départ de Theresa May. D'ailleurs, il est lui-même sur les rangs pour être Premier ministre, en concurrence avec Boris Johnson et d'autres. Mais il y a un autre obstacle. Vous vous rappelez que la dernière fois, c'est John Bercow, le président de la Chambre des communes, qui avait refusé de soumettre au vote parce qu'il considérait que l'accord qui avait été négocié n'avait pas changé d'un iota. Et donc, aujourd'hui, il n'a pas changé. Et donc, John Bercow pourrait très bien, ce serait un nouveau rebondissement, considérer que dès lors que cet accord n'a absolument pas bougé, eh bien, il refuserait de le soumettre au vote à la Chambre des communes. Donc, on est encore dans une situation très incertaine.
Situation shakespearienne, donc. Le Parlement britannique a refusé par ailleurs hier tous les scénarios possibles qu'il s'était auto-proposés. Les 8 choix ont été rejetés par les députés lors d'une série de votes indicatifs. Nouvelle condamnation pour Monsanto aux États-Unis. Le groupe doit payer 71 millions d'euros à un retraité malade d'un cancer qu'il attribue au Roundup. C'est la 2e fois en quelques mois qu'un jury populaire condamne le géant de l'agrochimie. Bayer Monsanto va faire appel de cette décision. Les États-Unis, où Boeing a présenté hier les modifications apportées sur le logiciel de stabilisation de ses appareils 737 MAX. 2 avions de ce type, rappelons-le, se sont écrasés en 6 mois. Un nouveau logiciel donc présenté hier à Seattle. Quand au même moment, à Washington, le patron de la FAA, l'agence de régulation aérienne américaine, lui était entendu par le Congrès. Et il a dû expliquer dans quelles circonstances son agence avait certifié ses appareils, Grégory Phillips.
Pendant 2h30, le sénateur Ted Cruz et ses collègues, démocrates et républicains, passent sur le grill l'administrateur de l'AFA, Daniel
Wong.
C'est son agence, l'administration fédérale de l'aviation, qui donne son feu vert à tout ce qui vole aux États-Unis. La sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar, demande s'il est possible que l'agence ait négligé ou mal appréhendé certaines mesures de sécurité concernant le 737 MAX. Elwell répond que la FAA fait bien son travail, mais que si au terme des investigations en cours, des erreurs sont relevées, alors le bureau de certification modifiera ses procédures. Plus tôt au Congrès, c'est la secrétaire au transport, Hélène Chao, qui a été entendue. Il n'y avait aucune raison factuelle de clouer ces avions au sol, déclare-t-elle, alors que les autorités américaines ont attendu 3 jours après le crash en Éthiopie pour prendre cette décision. À Seattle, enfin, au même moment, le vice-président de Boeing, Mike Sinnett, prend la parole pour dire qu'à ses yeux, le 737 MAX reste un avion sûr. Il promet néanmoins que le logiciel MCAS de stabilisation de ses appareils sera modifié et présenté à la fin de cette semaine.
La journée fut dense hier au procès en appel d'Abdelkader Merah et Feta Malki à la cour d'assises de Paris. Elle a entendu l'ancien patron du renseignement français, Bernard Squarcini, auteur de la formule si décriée du loup solitaire pour qualifier Mohamed Merah, l'auteur des attentats de Toulouse et Montauban, le frère cadet de l'accusé. La cour a également entendu le frère aîné de la fratrie, un témoignage à charge contre Abdelkader Merah, Florence Turme.
Pas une fois, son regard ne croise celui de son frère, mais face à la cour, Abdelghani Merah répète sa certitude. C'est lui qui a armé le bras de Mohamed Merah. Il est là, on a notre futur Ben Laden français. La référence n'est pas innocente. Le 11 septembre, Abdelkader Merah a crié pendant 2 heures le nom du commanditaire des attentats. L'ancienne compagne d'Abdelghani Merah, elle, se souvient qu'il voulait même se faire tatouer son nom sur le front et qu'elle craignait qu'il ne vienne, comme il l'avait annoncé, prendre son fils le jour de ses 18 ans. Aujourd'hui, c'est un grand jeune homme élégant, chemise blanche, costume gris qui s'avance à la barre, étudiant en école de commerce. Il rappelle l'influence que ses deux oncles ont pu avoir sur lui durant son enfance, explique qu'il a aussi rompu tout lien avec son père. « Vous voulez dire quelque chose à Monsieur Merah ? Je vois que vous le regardez », intervient la présidente. Il hésite un peu. « Je ne comprends pas. Ce qu'a fait Mohamed, c'est horrible, dégueulasse. Sauf que lui, il a été jusqu'au bout, il a assumé. J'espère, glisse-t-il la voix tremblante, que cela ne sera pas mal interprété. Mais toi, tu mens, tu cherches à protéger ta petite personne, tu t'enfermes dans la lâcheté. » À son tour, Abdelkader Merah demande la parole, voix calme face à son neveu. « Je souhaiterais lui dire que je suis fier de lui. Après l'épreuve qu'il a subie, il s'en sort comme un homme. Je comprends qu'il pense que je suis complice, mais je tiens à te dire aussi, conclut-il, que je suis sincère et que je suis innocent. »
Florence Turme qui suit pour France Culture ce procès d'Abdelkader Merah. La manifestation envisagée après-demain samedi sur les champs Champs-Élysées dans le cadre de la mobilisation des Gilets jaunes. Cette manifestation sera interdite. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, l'annonçait hier. 3 mois d'ateliers, de concertation pour mieux encadrer et accompagner surtout les mineurs chez l'aide à l'enfance. Ils sont au total plus de 340 000. Et hier donc, le nouveau secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, Adrien Taquet, lançait une concertation, Maud Calves.
Plus de contrôle dans les structures d'accueil, développer l'accompagnement scolaire ou encore augmenter l'offre d'hébergement. En bref, comment améliorer l'aide sociale à l'enfance? Une vaste question à laquelle le secrétaire d'État chargé de la protection à l'enfance, Adrien Taquet, aimerait répondre.
Comment on sécurise davantage la vie de ces enfants quand ils sont pris en charge dans des institutions ou dans des familles d'accueil? Question de la scolarisation. On a beaucoup d'enfants qui connaissent des ruptures dans leur scolarité. Comment on invente des nouveaux modèles pour accompagner ces enfants-là?
Un enfant placé peut être changé de structure jusqu'à 7 fois. Comment donc lui assurer un environnement stable? La réponse est essentielle. Hervé Lowe, directeur de l'association SOS Village Enfant.
Quand on reconstruit des possibilités pour les jeunes d'avoir des adultes sur qui compter, mais aussi pour qui compter, c'est un maillage au fur et à mesure entre l'école, le quartier, les éducateurs qui s'occupent d'eux. Et on sait très bien les bouleversements que ça peut produire. Les enfants, par exemple, au bout d'un moment, vont arrêter d'avoir confiance et vont arrêter de créer des liens sincères.
340 000 jeunes sont accompagnés par l'aide sociale à l'enfance, une aide que gèrent les départements. Ils y consacrent plus de 7 milliards d'euros chaque année. Frédéric Bierry est vice-président de l'Assemblée des départements de France. Malgré tout, la collectivité est dépassée.
On a besoin aujourd'hui d'accompagnements de santé qui ne sont pas aujourd'hui en nombre suffisant aussi. Là, on est sur le fond. C'est bien de travailler sur les enjeux de société, mais on voit bien que face à cette augmentation sensible des situations, à un moment donné, il faudra aussi pouvoir disposer de plus de moyens.
Une demande appuyée en temps réel puisqu'une vingtaine de personnes constituent chaque groupe de travail, parmi lesquels départements, associations, familles d'accueil, mais aussi anciens enfants placés.
Ce jeudi sera globalement une belle journée ensoleillée. Il fait 9 degrés à Besançon et Lille, 11 à Paris, 15 degrés ce matin à Marseille.